invite à ouvrir vos Bibles bleues à la page 1117, première épître des Corinthiens, au chapitre 7, et on va lire les versets 25 à 40. Pour ce qui concerne les vierges, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis en homme qui, grâce à la compassion du Seigneur, est digne de confiance. Voici donc ce qui me paraît bien à cause de la nécessité présente. Il est bien pour chacun d'être ainsi. Tu es lié à une femme, ne cherche pas à rompre. Tu n'es pas lié à une femme, ne cherche pas à deux femmes. Si toutefois tu te mariais, tu ne pécherais pas. Et si la Vierge se mariait, elle ne pécherait pas. Mais les gens mariés connaîtront la détresse et moi je voudrais vous épargner. Voici ce que je dis, mes frères. Le temps se fait court. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas. Et ceux qui usent du monde comme s'ils n'en usaient pas réellement, car ce monde tel qu'il est formé passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, il se demande comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, il se demande comment plaire à sa femme. Et il est partagé. De même, la femme sans mari, comme la Vierge, s'inquiète des choses du Seigneur pour être sainte de corps et d'esprit. Celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, elle se demande comment plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, c'est pour que vous fassiez ce qui est convenable et que vous vous attachiez au Seigneur sans distraction. Mais si quelqu'un estime qu'il agit de façon inconvenante envers sa vierge, s'il déborde de passion et qu'il doit en être ainsi, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche pas, qu'il se marie. Mais celui qui est bien résolu dans son cœur, sans contrainte et en pleine possession de sa volonté et qui a décidé en son cœur de respecter sa vierge, celui-là fera bien. Ainsi, celui qui épouse sa vierge fait bien et celui qui ne l'épouse pas fera mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari vient à s'endormir dans la mort, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Cependant, elle sera plus heureuse, à mon avis, si elle demeure comme elle est. Or, moi aussi, je pense avoir l'Esprit de Dieu.
Dans ces mots que l'apôtre Paul a rédigés, il encourage librement le fait de rester célibataire. Il est bien pour chacun d'être ainsi. Il y a une question qu'on peut se poser, mais c'est est-ce que c'est nécessaire, en fait, de l'encourager ? Alors, ça vous surprend peut-être, mais après tout, le mariage est en baisse. De plus en plus de personnes déclarent vivre seules. Et c'est le cas de la moitié de la population ici à Paris. Hein. Sur la couverture d'un magazine du Monde qui date de plusieurs années, en 2007, sauf erreur, le titre était le suivant : « Les nouveaux solitaires, fini le mariage, fini la vie en couple ». Les solos sont de plus en plus nombreux et ils assument. C'était en gros le flow. Et c'est vrai que dans l'article, on voit par exemple des personnes qui vivent ça de manière variée, des personnes qui sont pas dans une relation amoureuse, d'autres qui sont dans une relation amoureuse mais qui vivent chacun chez soi. Pour d'autres, ils sont dans des relations amoureuses simultanées. Enfin, c'est assez compliqué. Mais comment expliquer cette augmentation alors ? Comment expliquer cette augmentation du nombre de célibataires ? Le sociologue qui a probablement étudié le sujet avec le plus de profondeur, c'est Jean-Claude Kaufmann. Et voici ce qu'il écrit. L'individu moderne se veut de plus en plus maître de sa vie, composant sa vérité, choisissant sa morale, responsable de son identité. Certes, il est loin d'être aussi autonome qu'il le pense. L'important est néanmoins l'élargissement continuel de ces espaces de choix dans les domaines les plus divers. La décision de vivre ou non en couple n'est qu'un élément d'un processus plus vaste. Je veux dire dès le départ qu'il est dangereux, présomptueux de vouloir expliquer pourquoi telle ou telle personne est célibataire à cause de la complexité des trajectoires de chacun. Mais ce qu'il affirme, c'est que sur un plan général, et ça concerne les personnes mariées et célibataires, on est dans un courant, une aspiration vers l'autonomie. Et ce qui explique, en gros, le nombre croissant de personnes qui se déclarent célibataires, les solos, comme on les appelle. Alors, si ce courant il est déjà bien avancé, si on voit cette augmentation, alors pourquoi étudier le texte de ce soir ? Est-ce que ça vaut la peine ? Mais là, on va voir que l'apôtre Paul, ça vaut la peine d'étudier ce passage, parce qu'il n'a pas la même vision du célibat, il n'a pas la même vision du mariage. C'est un autre célibat qu'il a en vue. Et les raisons qu'il avance pour le célibat, elles sont différentes aussi. On va essayer de les comprendre. Pour l'encourager, pour suggérer cette voie-là du célibat, l'apôtre Paul veut tenir compte de plusieurs choses. Et ça sera notre plan, compte tenu du monde, d'un monde qui passe, compte tenu des inquiétudes, compte tenu de nos situations ou de nos convictions. Compte tenu d'un monde qui passe. Mathieu l'a relevé dimanche dernier, alors qu'il a commencé cette série sur la fin d'un Corinthien. La vision haute que l'apôtre Paul a du mariage, l'importance de l'exclusivité dans le couple, la révolution que représente la réciprocité entre hommes et femmes dans les relations sexuelles, dans le mariage, ça c'est aussi révolutionnaire. Il a montré aussi l'importance du contexte de l'engagement pour l'intimité sexuelle entre un homme et une femme, pour qu'elles prennent tout leur sens. Oui, l'apôtre Paul a une vision haute du mariage, mais il a en même temps une vision haute du célibat, et c'est ce qu'on voit dans cette partie ici. Dans son livre qui retrace l'histoire du célibat, Jean-Claude Bologne commence par mentionner la perception qu'on avait des célibataires dans l'Antiquité. Alors, si vous êtes célibataire ce soir, et je pense que c'est la majorité d'entre nous, vous serez heureux de faire partie du 21e siècle. Écoutez ce qu'il faisait aux célibataires à Sparte. En hiver, les magistrats les obligeaient à faire nu le tour de la place publique et à chanter en le faisant une chanson composée contre eux et disant qu'ils étaient punis avec justice parce qu'ils désobéissaient aux lois. Vous êtes contents d'être au XXIe siècle. Hein ? Mais lorsque Bologne arrive au moment de décrire le christianisme, le chapitre sur le christianisme, il l'appelle justement la révolution du christianisme. Pourquoi ? Qu'est-ce que l'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe ? On lit au verset 25, « Pour ce qui concerne les vierges, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis en homme qui, grâce à la compassion du Seigneur, est digne de confiance. Voici donc ce qui me paraît bien à cause de la nécessité présente. Il est bien pour chacun d'être ainsi. Tu es lié à une femme ? Ne cherche pas à rompre. Tu n'es pas lié à une femme ? Ne cherche pas de femme. Si toutefois tu te mariais, tu ne pécherais pas. Et si la vierge se mariait, elle ne pécherait pas. Mais les gens mariés connaîtront la détresse et moi, je voudrais vous épargner. » Intéressant de relever ici que c'est un avis qu'il donne, hein, un avis qu'il le mentionne à plusieurs endroits, un avis personnel. C'est pas quelque chose de moral, vous ne devrez vraiment pas vous marier. À la différence, par exemple, du verset 10, où le divorce, il le décourage sur un plan moral. Mais il s'agit ici d'un avis personnel. Mais comment est-ce qu'il peut en arriver même à ça, même à donner cet avis-là ? Mais au verset 26, dans notre texte, il est question d'une nécessité présente. Une réalité qui décrit davantage par la suite. Mais avant de comprendre de quoi il s'agit, ça peut être utile de réfléchir à ce que pourrait être la nécessité présente dans notre société actuellement. Qu'est-ce que c'est que cette nécessité présente ? Pensez par exemple à un milieu plutôt traditionnel. L'idée, elle peut être assez répandue qu'un célibataire, c'est quelqu'un qui est dans une salle d'attente, dans l'attente du mariage. Et la mentalité est là, c'est « tu n'es pas marié ». Attends, il doit y avoir un souci, il y a un problème. Quel est ton problème ? Tu es l'attente de ta deuxième moitié. Et implicitement, qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend que la vraie vie, elle va commencer au moment où on va se marier. Mais selon ce premier courant, la nécessité présente se trouve dans le fait de se marier le plus rapidement possible. Et là, le célibat, il est perçu comment ? Au mieux, comme un purgatoire, c'est quelque chose qui va te permettre de devenir quelqu'un de meilleur. Au pire, comme une situation pitoyable. La nécessité, là, c'est qu'il faut se marier, il faut se marier pour le statut qui s'y attache aussi. Mais d'un autre côté, dans une ville comme Paris, c'est probablement un autre message qui domine. Quelque chose du genre, tu fais bien de te soucier de ta carrière professionnelle avant tout, de développer tout ton potentiel. Tu fais bien d'avoir une bonne situation et par la suite, éventuellement, penser au mariage. Parce qu'il faut attendre la personne idéale pour toi, personne qui ne va pas vouloir te changer, qui va t'accepter comme tu es. Puis après tout, ça ne t'empêche pas de flirter à droite et à gauche. Et selon ce courant-là, la nécessité présente, c'est quoi ? C'est de choisir ce qu'on veut et quand on veut. Le mariage, dans ce cas-là, il est perçu comme quelque chose qui, en fait, peut entraver notre autonomie, notre épanouissement personnel. Mais dans les deux cas, on se trompe sur la nature du mariage et sur la nature du célibat. Dans le premier cas, on donne trop d'importance au mariage et on néglige la vision haute que l'apôtre donne au célibat. Dans le deuxième cas, on donne trop d'importance à son autonomie et on néglige la vision haute que l'apôtre donne au mariage. La nécessité présente, elle est ailleurs. On lit au verset 29 à 31, et vous pouvez le lire si vous voulez dans les Bibles. Voici ce que je dis, mes frères, le temps se fait court. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent, comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent, comme s'ils ne possédaient pas. Et ceux qui usent du monde, comme s'ils n'en usaient pas réellement. Car ce monde, tel qu'il est formé, passe. Quand on lit ces paroles, il faut reconnaître que ça surprend. Difficile à comprendre là où l'apôtre Paul veut en venir. Que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. C'est le contraire de ce qu'il a dit au début du chapitre. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne réjouissaient pas. Ce n'est pas lui qui écrit aux Romains, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Où est-ce qu'il veut en venir ici ? L'idée, c'est qu'on devrait se réjouir, c'est vrai, de ce qu'on possède dans ce monde, mais sans en être obnubilé. On devrait s'attrister de situations pénibles, de situations difficiles, mais pas au point d'être complètement anéanti. Pourquoi alors ? Parce que la joie, la véritable joie des croyants, elle est liée à leur avenir, à leur futur. Le temps dans lequel nous sommes, il est marqué par ce que les théologiens appellent le « déjà » et le « pas encore ». C'est un des éléments qu'on avait relevé quand on a fait notre série, pour ceux qui étaient là, sur les paraboles du royaume. Jésus est venu inaugurer le royaume par sa personne, par sa présence, et il invite chacun à reconnaître la radicalité de cette venue, l'importance de cette venue, et toutes les conséquences qu'elle entraîne. Mais dans le même temps, il annonce qu'il y a une pleine manifestation qui est encore à venir, un règne qui sera parfaitement établi. Et avec cette perspective du déjà, du pas encore, l'apôtre dit donc, le temps se fait court, ce monde tel qu'il est formé passe. Et du coup, il va voir les choses, on devrait voir les choses d'une autre façon. Ça remonte à 10 ans maintenant, mais à 3 reprises, je participais à l'organisation d'un camp à Genève. Et une des grandes sorties du séjour, c'était la visite d'une chocolaterie. Le moment fort de la visite, c'était la dégustation de chocolat. Et pour les gars, vous me contrariez, ce n'est pas le cas, hein, mais il y a l'aspect compétition quand on est dans une dégustation. Je veux dire, on se demande combien de chocolat on va pouvoir manger, qui va en manger le plus. Et avant d'aller donc visiter la chocolaterie, je montais le bourrichon à tout le monde, au groupe, en précisant qu'il ne fallait pas tomber dans un piège. Dans la chocolaterie, dont je tairai le nom, il y avait l'habitude de sortir les chocolats de base, c'est-à-dire l'équivalent de la tablette de chocolat, dans le premier service. Et après un temps, ils sortaient les plateaux avec les chocolats les plus délicats, les plus raffinés. Et mon conseil, c'était donc, prenez des chocolats dans le premier service, mais attendez le deuxième. On aurait pu se jeter sur les premiers chocolats qui venaient et manquer l'occasion de déguster davantage de chocolats plus raffinés. Pour ceux qui étaient dans notre groupe, on a fait les repas par quartier. On aurait pu focaliser toute notre attention sur les blinis au saumon, sur le guacamole. Mais il fallait avoir en vue la soupe de châtaigne et de potiron, la salade, le plat, gratin dauphinois, ragoût, le fromage, le dessert, le café. On ne va pas se servir de la même façon si on ne distingue pas si on pense que c'est un apéritif ou si on pense que c'est un apéritif dînatoire. Et ce que l'apôtre Paul affirme ici, c'est que, en vue de la réalité à venir, on va vivre les choses présentes d'une manière différente en tant que croyant. Il y a un témoignage à rendre à cette réalité future. Cette vie n'est pas la fin, elle n'est en fait que le début d'une réalité bien plus belle, bien plus réjouissante, bien plus grande. Et pour ceux qui sont mariés, ils sont appelés à témoigner de cette vie future par l'exclusivité de leur relation l'un à l'autre, dans leur amour, leur fidélité. Ils témoignent par leur amour sacrificiel de l'amour de Dieu. Ils en sont le reflet, l'amour de Dieu vis-à-vis de son peuple. Mais dans la manière de témoigner cet amour, je soulève la question à ceux qui sont mariés ce soir. Comment est-ce que nous allons témoigner du fait que le mariage, aussi beau soit-il, n'est pas l'aboutissement? Comment est-ce que vous allez en témoigner? Comment est-ce que vous allez pouvoir dire à vos amis qui sont célibataires, comment est-ce que nous allons pouvoir dire que le célibat est un don de la grâce de Dieu, le mariage est un don de la grâce de Dieu? Comment est-ce que je vais témoigner par mon attitude, par mes paroles, que le plus beau est à venir, que le mariage n'est pas l'aboutissement. Pour les célibataires maintenant, selon l'apôtre Paul, il y a un témoignage très fort à rendre à cette réalité à venir. Les célibataires qui vivent sans cette intimité dans le cadre d'un couple témoignent du caractère essentiel de la relation à Jésus. Témoignent de manière très palpable, très concrète, que Jésus est celui qui est au cœur de leur vie, que c'est lui qui répond à leurs besoins le plus profondément. Et ça, c'est un témoignage très fort. J'ai discuté avec une mère la semaine dernière qui me parlait de son fils qui fait une école d'officier à Saint-Cyr Elle voit ses collègues qui n'arrêtent pas de poser des questions parce qu'en fait, il est célibataire, il est croyant, il n'a pas de copine, mais il le vit bien. Il est bien dans ses baskets, il est joyeux, il est aimable à connaître. Enfin, il construit toutes sortes de relations avec eux. Et en même temps, il n'a pas de copine. Attends, mais qu'est-ce qui lui permet de bien vivre sa vie? Comment est-ce que je peux refléter par ma vie que la réalité à venir est plus belle encore? Comment est-ce que je vais approfondir ma relation avec Jésus? Comment est-ce que je vais m'en nourrir? On arrive au deuxième point, compte tenu des inquiétudes. La deuxième raison pour laquelle l'apôtre Paul voit dans le célibat du croyant quelque chose de très souhaitable, et c'est son cas, c'est qu'il voit une formidable opportunité. Au verset 32, il dit « Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Il se demande comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde. Il se demande comment plaire à sa femme. » Par la suite, au verset 35, « Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, c'est pour que vous fassiez ce qui est convenable et que vous vous attachiez au Seigneur sans distraction. » Il y a un sens dans lequel une personne qui n'est pas mariée a une plus grande disponibilité d'esprit, mais aussi de manière générale au niveau du temps, une plus grande disponibilité pour tisser des liens, pour servir. Et sans vouloir dénigrer la valeur du mariage, moi je le constate sur un plan personnel, quand je compare le temps où j'étais célibataire et maintenant, tout en reconnaissant le privilège et la beauté du mariage, de vivre ensemble, pour le Seigneur. Il y a une disponibilité au niveau des liens, des amitiés, du service, du ministère pastoral que j'ai perdu. Et c'est normal, on doit se consacrer à sa femme, à sa famille. Ce que l'apôtre Paul veut, et il le dit au verset 35, c'est l'attachement au Seigneur. Et ça, il le veut à la fois pour les personnes qui sont mariées et pour les couples. Être attaché au Seigneur, ça signifiera en particulier prendre soin de sa femme, de ses enfants. C'est la loyauté qu'il a décrite au verset 2 à 6. Même si l'amour s'étend plus loin, il y a une priorité donnée à la famille. Et pour ceux qui sont célibataires, être attaché au Seigneur, ça signifiera servir avec un amour, à mon avis, qui est plus large, plus englobant, à cause de la disponibilité. En tant que célibataire, il faut reconnaître qu'il y a, une opportunité, un privilège de pouvoir tisser des liens, maintenir des liens avec davantage de personnes, passer du temps avec les uns et les autres, une plus grande souplesse dans les amitiés présentes et les amitiés à entamer. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait encourager dans l'Église. Reconnaître le bienfait de ces liens que les célibataires peuvent tisser les uns avec les autres et avec d'autres personnes. Maintenant, j'imagine que quelqu'un qui vit difficilement son célibat en ce moment vient avec une question à l'esprit en pensant à des inquiétudes. Mais moi, mon inquiétude à moi, c'est que j'aspire au mariage. Et je vis avec cette inquiétude de ne pas me marier, de ne pas voir cette possibilité de mariage se présenter. Dans la dernière section, on verra qu'il y a une légitimité à rechercher un conjoint. Mais dans le même temps, sur un plan personnel, pour avoir été célibataire pendant 33 ans et avoir aspiré fortement à différents moments à être marié, je pense qu'il y a une occasion à saisir, à ne pas manquer, pour développer cette relation à Jésus, pour reconnaître son caractère essentiel, profond, durable, pour quelqu'un qui sera célibataire et pour quelqu'un qui sera marié. Dans les deux cas, cette relation, elle sera au cœur de notre vie. Alors pourquoi pas saisir cette occasion aujourd'hui d'y goûter et d'y goûter davantage. On passe à la dernière partie, compte tenu de nos convictions, nos situations. Le principe de base que l'apôtre Paul a appliqué tout au long de ce chapitre, c'est, on peut le résumer au verset 20, que chacun demeure dans la condition où il était lorsqu'il a été appelé. À ceux qui sont mariés, restez mariés. À ceux qui ne sont pas mariés ou veuves, il est bon de rester non mariés. Et il fait ça, ainsi de suite. En gros, l'idée, c'est de rester dans la condition dans laquelle on est devenu croyant. Comme on l'a vu dans le premier point, l'apôtre Paul applique ce principe parce qu'il pense que c'est de cette façon qu'on va relativiser l'importance du statut social. Il y a une réalité plus belle, plus grande encore. Et donc, si je me contente de la situation dans laquelle je vis, je dis par ma vie que la réalité à venir est plus grande, plus belle. Mais il est même prêt à relativiser son principe parce que, de nouveau, le statut social, il n'est pas aussi important. Dans cette dernière section, il affirme que si une personne pense qu'il est préférable de poursuivre en vue du mariage avec quelqu'un, eh ben, qu'elle le fasse. Aucun mal à ça. Une femme qui serait veuve et qui souhaite se remarier, c'est la même chose. Elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Peut-être qu'on peut faire deux remarques sur cette section. Vous avez relevé le fait qu'il parle de vierge, de veuve, et là, la distinction entre les deux semble sous-entendre qu'il y a pour l'apôtre Paul l'importance, quand on n'est pas encore marié, on ne s'est pas encore marié, de se préserver pour cet engagement dans le cadre du mariage, de vivre cette intimité sexuelle au moment du mariage. Deuxième remarque qu'on peut relever dans cette phrase qu'il dit, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'il entend par là? Dans la première partie, dit la grande liberté qu'on a, à qui elle veut, mais seulement que ce soit dans le Seigneur. Il y a quand même l'importance d'un cadre ou d'un cœur à la relation qu'on veut tisser. Si notre relation à Jésus est ce qu'il y a de plus important pour nous, si cette relation à Jésus est au cœur de notre existence, eh bien, on voudra l'avoir en commun avec la personne qu'on veut épouser. Imaginons que ce ne soit pas le cas. Imaginons que quelqu'un veuille se marier avec quelqu'un qui n'a pas Jésus au cœur de sa vie. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui est au cœur de votre vie, vous ne le partagez pas avec votre conjoint. La première option, c'est que la relation à Jésus, elle va petit à petit devenir périphérique. D'autres choses que vous avez en commun avec votre conjoint, elles vont devenir primordiales. C'est ça qui sera au cœur de votre relation. L'autre option, c'est que votre conjoint va se sentir à un moment ou à un autre exclu ou offensé par ce que vous croyez, parce qu'il est l'objet de votre foi, mais qui n'est pas la sienne. Mais dans les deux cas, la situation, elle n'est pas enviable. Quant à la réalité d'une aspiration au mariage, comment est-ce qu'on va le vivre présentement? J'aimerais vous lire une citation d'un témoignage qu'on trouve dans le livre de Gérard Roirot, « Croître dans l'amour ». Cette femme célibataire parle d'une œuvre de grâce en elle où elle dit le « oui » nécessaire à l'acceptation d'un état que je n'ai pas choisi et que je ne considère pas nécessairement comme définitif. Car mon « oui » au célibat est à présent, n'est pas un « non » au mariage, mais une libération. Un « oui » qui va me permettre d'avoir cette vie équilibrée à laquelle chacun de nous rêve. Un oui à l'état présent au célibat, ce n'est pas un non au mariage, mais un oui qui va permettre une libération, reconnaître que ce n'est pas dans le mariage lui-même qu'est l'aboutissement. En conclusion, qu'est-ce qu'on veut dire? Le mariage, le célibat, tous les deux sont un don de la grâce de Dieu. Tous les deux ont un témoignage à rendre et ils sont complémentaires dans le témoignage de la vie future des croyants. Les deux reflètent l'amour de Dieu, l'un de manière exclusive, l'autre dans un aspect plutôt expansif, englobant. Et les deux ont au cœur la relation à Jésus. Et les deux auront, que l'on soit marié ou célibataire, à développer cette relation-là au cœur de leur vie.